Bonjour à tous. Donc, je me présente, Stéphane Priulski. Et donc, c'est moi qui vais devoir répondre à cette étonnante question. Et si on déclarait la guerre aux machines ? Et comme vous le constatez, c'est tellement facile comme sujet qu'on m'a mis tout seul pour répondre à la question. Donc, je remercie les organisateurs. Voilà, blague mise à part. Je pense que si vous le souhaitez, je pense qu'on va essayer d'échanger un petit peu sur le sujet et explorer peut-être quelques pistes ensemble, sachant que moi, de mon côté, je vais d'abord un peu me présenter et puis présenter ce que je travaille, parce que je suis pas, je pense, un puits de science en la matière. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, sachant que moi d'abord je viens de l'histoire en fait, et de l'histoire militaire, ce qui pourrait éventuellement expliquer le côté guerre aux machines. Donc j'ai d'abord commencé par faire des livres d'histoire militaire, et dans la tétralogie des origines, donc qui est parue au Bélial, les trois premiers tomes, donc Le Château des Millions d'Années et Le Marteau de Thor en 2015 et Club Uranium donc en 2016, en juin, je me suis essentiellement attaché donc à parler de la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi déborder un petit peu sur la période de la guerre froide et jusqu'à nos jours. Donc, et pour l'instant, j'en dis pas plus, parce qu'évidemment, dans les développements du quatrième tome, il sera question de périodes sur lesquelles je reviendrai pas plus en détail pour le moment. Maintenant, par rapport à tout ça, quand on m'a présenté le sujet et j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais en dire, et donc j'ai pris même des antisèches pour ça, parce que ça va pas être facile, je me suis dit que j'explorais donc. Vous comprenez avec le titre Club Uranium qu'il est un tout petit peu question de l'atome et en l'occurrence du développement de l'arme atomique. Donc moi, en termes de machines et de menaces des machines qui pourraient pousser l'humanité ou une partie de l'humanité à déclarer la guerre à ces machines, moi je me suis davantage intéressé, au développement de l'arme atomique plutôt qu'à une intelligence artificielle, donc désireuse de nous éradiquer, ou à des machines de type Terminator qui auraient également, enfin qui souhaiteraient donc détruire l'humanité ou une partie, ou la servir. Ou également dans des environnements de type Matrix où on va retrouver, encore une fois, la volonté d'asservissement. Moi, si la volonté d'asservissement de la race humaine, la volonté de destruction de la race humaine, je l'explore du point de vue de l'humanité, c'est-à-dire essentiellement donc du point de vue du nazisme, et puis aussi des différentes factions qui s'opposent dans mes romans, donc des factions qui existent au sein des démocraties. Parce que donc moi je pose un paradoxe donc par rapport à donc au développement de l'arme atomique, un paradoxe qui finalement pour moi est évident, c'est que l'arme atomique, la seule arme à ma connaissance capable à l'heure actuelle d'éradiquer l'espèce humaine sur cette planète, elle a été créée par une démocratie, elle a été développée par une démocratie. Et justement, moi, je parle donc de Seconde Guerre mondiale, et je m'attache avec mes personnages et mon personnage principal. Et je fais attention aux mots, c'est-à-dire que c'est pas un héros, c'est mon personnage principal. C'est un nazi, c'est un espion nazi. Il s'appelle Friedrich Saxhauser. Et ce personnage, justement, c'est un peu aussi mon idée de paradoxe, c'est-à-dire que j'essaie aussi de trouver dans ces gens-là, entre guillemets, des côtés, je vais pas dire positifs, mais en tout cas poser certaines interrogations. Et donc là, je vais finir mon préambule là-dessus, pour vous parler donc d'un personnage qui est relativement clé dans le Troisième Reich d'Adolf Hitler, c'est le professeur Werner Heisenberg. Donc c'est un... je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Heisenberg. Je parlais tout à l'heure dans une précédente table ronde de l'état de la science, entre guillemets, en janvier 1939, donc avant le début du second conflit mondial. Il y a Einstein qui va écrire une lettre au président Roosevelt, au président américain. une lettre dans laquelle il lui explique que le développement d'une arme atomique est possible. Et j'ai entendu sur plusieurs tables rondes des scientifiques notamment revenir sur les capacités, je dirais, enfin voilà, de je dirais intellectuelles, les capacités scientifiques d'Einstein. Ce qui est intéressant à noter dans cette lettre, c'est qu'en janvier 39, Einstein décrit la bombe atomique à Roosevelt comme étant uniquement transportable par bateau. Et il la voit pesant plusieurs tonnes parce qu'il n'a aucune idée de la masse critique, c'est-à-dire de combien il faut d'uranium exactement pour que se produise la fameuse réaction en chaîne qui entraîne l'explosion d'une arme atomique. Donc on voit qu'en janvier 39, quelqu'un d'aussi calé qu'Einstein, il n'est pas capable de dire à quoi doit ressembler exactement une arme atomique. Et vous mesurez donc le peu de temps qu'il a fallu finalement pour arriver à la première explosion atomique, donc c'est en juillet 1945. Hein, donc vous voyez, il a suffi de 5 ans et demi, quelque chose comme ça, pour développer cette arme. Je vous parlais d'Heisenberg. Heisenberg, c'est un physicien allemand. Il travaille donc en Allemagne pour les nazis. Et il est, à l'époque, donc en janvier 1939 toujours, il est sans doute le scientifique dans le monde qui est le plus à même de définir exactement la masse critique d'une bombe atomique. C'est-à-dire que les Allemands, Adolf Hitler, en 1939, bénéficient sans doute du savant qui est le plus compétent pour développer une bombe atomique. Et pourtant, ce sont les Américains qui vont la faire. Il y a une, donc, on essaie depuis tout ce temps-là de comprendre finalement ce qu'a fait Heisenberg, c'est-à-dire que Heisenberg, quelque part, c'est lui qui a déclaré sans doute, je pèse mes mots, donc il a sans doute, lui, déjà, déclaré une guerre aux machines et déclaré une guerre en tout cas à cette machine de mort qu'était la bombe atomique. Comment il a fait ? Il s'est tout simplement pas pressé. C'est-à-dire que il a fait en sorte que ses travaux traînent en longueur. Il a fait en sorte de ses travaux traînant en longueur, ça lui a permis de conserver auprès de lui de jeunes physiciens allemands avec l'idée de que ces gars-là déjà n'iraient pas faire la guerre sur le front de l'Est où on avait peu de chances de revenir vivant. Donc il voulait d'abord sauver ses disciples, on va dire. Donc il y est parvenu. Il a donc réussi à préserver en Allemagne un noyau, et c'est un sacré jeu de mots de l'atome. Donc il a réussi à préserver comme ça un noyau de scientifiques qui ont pu continuer les travaux après la guerre. Mais aussi, il a réussi à expliquer aux Allemands aux nazis à partir de 1942 que faire une bombe atomique, ça coûtait très cher, ça prendrait beaucoup de temps, et surtout il n'y avait pas de garantie de résultat. Et il a expliqué ça au ministre de l'armement qui s'appelait Albert Speer, qui était donc un proche, un confident d'Hitler, et quelqu'un d'ailleurs qui a été très compétent dans son métier, parce que il est aujourd'hui avéré que grâce aux travaux de Speer et à l'organisation du travail, ils ont sans doute réussi à prolonger la guerre d'un an, ce qui malheureusement a fait des millions de victimes. Mais en tout cas, ce type était compétent, mais il a réussi quand même à se faire enfumer par Heisenberg, qui a réussi donc à lui expliquer qu'on ne pouvait pas faire de bombe atomique. Finalement, les nazis se sont arrêtés là. À contrario, de l'autre côté de l'Atlantique, on avait des scientifiques, essentiellement des réfugiés politiques pour des questions, alors réfugiés pour des questions à la fois politiques et religieuses, parce que nombre d'entre eux étaient de confession juive, nombre d'entre eux étaient allemands ou italiens, donc ils fuyaient Mussolini ou Hitler, ils s'étaient réfugiés aux États-Unis. Ils savaient à partir de 1939 que Heisenberg, le plus calé d'entre eux, était toujours en Allemagne et avec ses compétences et son cerveau. Donc c'est eux qui, avec un peu Einstein en fer de lance, ont dit de leur côté à Roosevelt, il faudrait peut-être qu'on fasse une bombe atomique, parce que en face, s'ils la font, ça va être terrible. Donc, et c'est ce qui s'est effectivement produit. C'est donc, et avec le paradoxe que j'ai énoncé au départ, à savoir que c'est donc une démocratie qui a développé l'arme atomique. Pour terminer sur Heisenberg, il faut savoir donc qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fait partie de ce groupe de scientifiques qui ont été mis au secret par les Alliés, donc dans un manoir en Angleterre qui s'appelle Farm Hall, et où on a enregistré tous ces messieurs, tous ces scientifiques allemands qui étaient enfermés là, et ces gens, donc on leur a fait savoir à un moment donné que la bombe avait explosé d'abord au Nouveau-Mexique et puis ensuite sur Hiroshima et Nagasaki. Et ce sont des gens qui ont pu à la fois s'apercevoir, je dirais, du retard qu'ils avaient pris dans leurs travaux, mais également, au départ, hein, c'est-à-dire en 1939, du potentiel qu'ils avaient, c'est-à-dire de ce qu'ils auraient pu éventuellement développer. Donc on peut dire quelque part que Heisenberg, il a gagné sa guerre contre les machines, parce qu'en tout cas, il a empêché Hitler de se doter de l'arme atomique. Tout ça... Il faut savoir également que ce sont uniquement des conjectures d'historiens. C'est-à-dire que Heisenberg, tout au long de sa vie, s'est refusé à s'expliquer très clairement sur le sujet. Il a toujours expliqué qu'il voulait d'abord préserver la science allemande, hein, comme je disais, et donc réussir à garder les jeunes physiciens allemands avec lui dans les laboratoires. Il l'a également fait parce qu'il se considérait donc beaucoup de ses compatriotes avaient donc fui le régime, et lui, il avait considéré qu'il était de son devoir d'Allemand de rester en Allemagne, quel que puisse être le régime. Mais, comme je viens de le décrire, il n'empêche qu'il est, alors que c'était lui sans doute le plus compétent, et je dirais qu'en 1939, il était clair qu'il savait déjà très très bien qu'il était possible de faire une bombe atomique. Il est certain qu'il a fait en sorte de ne pas la faire. Pour moi, à travers mon histoire, selon moi, ça ressemble quelque part un peu à de l'histoire secrète. Et c'est un peu le fil conducteur de mon récit, c'est-à-dire qu'il se passe des choses dans mes romans qui sont parfois historiques, qui parfois ne le sont pas, et le jeu du lecteur, c'est de deviner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc ça c'était pour ma conception de la guerre aux machines, c'est-à-dire de dire, moi ce que j'en comprends et comment je vois les choses... Je considère que, autant quand on décrit des intelligences artificielles que quand on décrit des univers un peu, comme je disais tout à l'heure, comme Matrix, où en fait les machines prennent le pouvoir et tentent d'asservir l'espèce humaine, moi je vois toujours ça, je me dis, oui mais finalement on m'explique que pour être vraiment aussi méchant que ça, il faudrait donc être une machine, ou alors il faudrait être une intelligence artificielle. Quand vous avez compris que je parlais du Troisième Reich, moi je considère que l'homme peut déjà être suffisamment un loup pour l'homme, il n'a pas besoin d'une machine pour ça, et il est lui-même capable de créer des machines de destruction qui sont peut-être même selon moi plus performantes qu'une machine comme, je sais pas moi, comme le Terminator qui est finalement vaincu par un brave petit couple des années 80. Donc, c'est un peu sur ces pistes là que, en tout cas, je pourrais éventuellement me sentir à l'aise pour lancer un débat. Donc si maintenant vous avez envie qu'on échange, et ben on peut échanger.
Oui, alors on connaît surtout Wernher von Braun. C'est quoi le rapport entre les deux?
Braun, c'est les fusées.
Après, il est parti aux États-Unis pour fabriquer la bombe atomique.
Non, Braun, il faisait les missiles. Donc, il s'occupait essentiellement de balistique. Et je dirais que lui, à la différence de Heisenberg, Braun a développé effectivement des armes qui ont fonctionné. C'est le V1 et le V2, hein, c'est-à-dire des le V2, c'est un avion, c'est une bombe volante sans pilote, et le V1, c'est une bombe volante sans pilote, et le V2, c'est le premier étage de la fusée Apollo, parce qu'ensuite Braun il a travaillé pour la NASA. Et il a développé pour la NASA, il a développé le programme Apollo. Sachant que c'était aussi un officier SS, et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'était un officier SS et il utilisait un peu comme ils l'ont tous fait à l'époque des détenus de camps de concentration pour dans ses usines de fabrication des fusées. Donc là, c'est voilà, vous touchez du doigt tout de suite encore un des éléments de comment dire. Je suis souvent axé sur des personnages comme ça. C'est-à-dire que pour moi, Braun, il m'est pas très sympathique, si vous voulez. Même s'il a envoyé l'homme sur la Lune et qu'il a fait des films de vulgarisation pour la NASA avec Walt Disney. Moi, je trouve que son passé, en tout cas de scientifique sous le Troisième Reich, me le rend beaucoup moins sympathique que Heisenberg, qui, je dis encore une fois, si ce n'est stoppé, du moins considérablement ralenti tout programme et toute volonté, toute capacité de l'Allemagne nazie de développer une arme atomique.
Et après, il est allé travailler avec les Américains, alors Heisenberg ?
Braun, oui.
Heisenberg.
Heisenberg ? Je crois, entre autres, il a travaillé avec les Américains, entre autres. Mais je pense qu'il a aussi continué son travail en Allemagne. Il, comme je disais, il a fait partie de ces scientifiques qui ont été récupérés, etc. Donc, voilà.
Alors, comment... Donc, sinon, pour être sur le thème là de la conférence, en disant faire la guerre sur les machines, vous parlez de la Heisenberg. Est-ce que finalement, ce serait pas ça de faire la guerre des machines, ce serait pas faire Terminator et de se rebeller contre des machines qui nous en voudraient? Mais plutôt de tout faire pour qu'elles existent.
C'est la question que je pose à tout le monde. Ouais, effectivement, c'est-à-dire que selon moi, c'est Heisenberg a une comment on va dire ça ? Il a une réaction citoyenne, c'est-à-dire que il reste allemand, il continue à travailler pour son pays et pour la science de son pays, mais néanmoins. À partir du moment où il entrevoit la possibilité de faire une arme qui peut éradiquer l'espèce humaine, il le fait pas, ou en tout cas il fait en sorte que ça prenne trop de temps pour pouvoir le faire. Il y a un truc qui est, à mon avis qui est très comment on va dire ça, qui est significatif au niveau du développement de l'arme atomique, c'est que ça a commencé par des calculs mathématiques. Je suis archi nul en maths, hein, il faudra surtout pas m'interroger là-dessus, mais ce que j'en ai lu du moins, c'est que au départ, c'est des mecs sur un tableau noir qui font des équations. Et me demandez plus exactement lequel et à quel endroit, il y a des mecs qui ont commencé dans les années 30 en faisant des équations à se dire, ah mais bon sang, mais c'est bien sûr, ça c'est entre guillemets, ça peut faire péter une bombe et ça peut tuer plein de gens. Et donc c'est ça l'état de la science en 1939. C'est-à-dire qu'un mec comme Heisenberg, il sait que c'est possible, il sait surtout que ça peut tuer beaucoup de monde en une nanoseconde. Et ça, évidemment, c'est le danger absolu. Donc effectivement, la question dans tout ça, c'est la guerre aux machines, est-ce qu'elle ne doit pas effectivement être menée avant ? C'est-à-dire dans la façon dont une société, elle fait des choix scientifiques. Moi je sais, on en parlait tout à l'heure avec deux, trois collègues, vous êtes ici en Val-de-Loire, vous avez quelques réacteurs nucléaires là, qui s'échelonnent le long de votre fleuve. Je ne sais pas comment vous les voyez vus d'ici. Moi, je peux vous dire que je suis de Metz et la centrale qui est pas loin de chez moi, elle est à 30 km. Elle est quasiment à cheval sur la frontière luxembourgeoise et allemande. Et quand il y a un incident dans cette centrale, on la prend généralement par la presse allemande ou par la presse luxembourgeoise, jamais par la française. Et souvent même, les Luxembourgeois ou les Allemands s'émeuvent du fait que, ah ben voilà, une fois de plus, il y a eu un incident à Cattenom, hein, donc c'est à côté de Thionville, il y a eu un incident à Cattenom et les Français nous ont rien dit. Et donc, c'est eux qui le savent. Alors, comment ils l'apprennent, ça, me demandez pas, hein, j'en sais rien. Est-ce qu'eux, ils font des mesures de leur côté? Je n'en sais rien non plus. Mais je trouve ça assez... c'est encore un paradoxe, quoi. C'est-à-dire que quand on le voit de chez nous, entre guillemets, on n'entend rien. À Metz, on ne nous en parle pas. Les gens de Thionville, on leur distribue des pastilles d'iodes. Ils doivent renouveler ça en pharmacie. Ils ont des reins de façon assez régulière. Je pense qu'à Chinon, ou je ne sais plus quoi, ici, où elle se trouve exactement, ça doit être à peu près la même chose pour les populations environnantes. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas exactement la même vision de cette énergie. Ça renvoie encore une fois au questionnement d'Heisenberg et au choix énergétique des différents pays. Pourquoi aujourd'hui l'Allemagne elle sort du nucléaire et pourquoi la France elle le fait pas? Si on peut me jurer qu'effectivement tout restera sous contrôle pendant 10 000 ans et si dans 10 000 ans il y aura toujours un ingénieur spécialiste d'Areva qui sera là en train de toucher ses manettes, moi je veux bien prendre le pari avec qui ici, mais malheureusement il n'y aura personne pour le vérifier. Voilà, donc ça c'est sur les questionnements et sur le fait de dire à un moment donné. Oui, effectivement, moi je considère que oui, il y a un moment donné, c'est avant que le problème ne devienne trop prégnant qu'on doit essayer de le régler. Voilà. En tout cas, pas attendre que les machines aient pris le pouvoir.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur le fait que, dans la mesure du possible, les problèmes, ils doivent être anticipés. Parce que, je me projette beaucoup plus dans l'avenir, et notamment sur la singularité, qui est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Donc, le moment où les machines deviendront autonomes et pourront se passer de l'humanité, ça, c'est quelque chose qui est théoriquement possible, et si on veut éviter, on a vraiment intérêt de le penser avant, parce qu'à partir du moment où il aura lieu, ce sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc,
vous permettez ? Oui, mais alors là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je suis d'accord, mais en même temps, je considère que l'humanité est pour l'instant, le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme. Hein, les guerres l'ont prouvé, je pense. Il y a peut-être quelques virus qui sont pas très gentils, mais je pense que pour l'instant, en termes de massacre de masse, celui qui a le meilleur score pour l'instant, c'est l'homme.
Il y a le moustique aussi qui est pas mal.
Pardon ?
Le moustique.
Et
aussi.
Le moustique, ouais. Mais donc, par rapport à ça, je me dis, est-ce que, par contre, là, c'est l'interrogation par rapport aux prises de contrôle des machines. J'ai regardé Planète Interdite pour préparer un peu ma venue ici, et je vois, il y a Roby le robot, et il a ses inhibiteurs de comportement qui l'empêchent de faire du mal à un être humain, hein, et ça je pense a été réutilisé des dizaines de fois dans la science-fiction, hein, ce type de gadget entre guillemets. Moi je me dis est-ce que, ça c'est une question, c'est pas une affirmation, mais est-ce que voilà, au moment du prise de s'il y avait prise de contrôle par les machines, est-ce qu'elles feraient pas tout le contraire que ce qu'elles font dans Matrix ou Terminator? C'est-à-dire que dans Matrix, le chasseur dit à Neo, oui, de toute façon vous êtes un virus, moi je veux vous éradiquer parce qu'en fait partout où vous passez, vous vous multipliez, vous pompez toutes vos ressources, et à la fin il vous reste plus qu'à vous déplacer ailleurs pour recommencer à tout détruire. Je veux dire, quelque part, l'analyse de la machine, c'est de dire finalement on peut faire mieux que vous en termes de vie en symbiose dans un écosystème. Enfin,
oui, mais ça je suis tout à fait d'accord, mais je pense que les machines, si on se projette dans l'avenir, on pourrait avoir toute une gamme de comportements possibles des machines, c'est impossible à prévoir. On pourrait avoir des machines qui essaieraient qui auraient un comportement comme dans Matrix, des machines qui essaieraient de vivre en symbiose avec leur environnement, des machines qui essaieraient d'assimiler et de consommer tout leur environnement comme des humains, mais de manière encore plus efficace. Donc à mon avis, c'est difficile d'anticiper quel pourrait être le comportement des machines. Après, faut pas oublier qu'à la base, c'est nous qui les programmons, ces machines. Donc je pense qu'une guerre entre machines et humains n'aurait probablement lieu que si la machine avait un comportement relativement similaire à l'humain et qui est très consommateur de ressources,
tout à fait,
pour lequel
tout à
les
fait
machines
d'accord.
et les humains seraient en compétition.
Oui, absolument. Oui, effectivement. Mais je pense qu'effectivement, comme vous dites, c'est, l'humain étant le premier programme, enfin étant le programmateur, moi je considère qu'effectivement il y a fort à parier pour qu'effectivement il y ait certains travers de l'espèce humaine qui se reproduisent dans ces programmes du futur. Enfin, moi je vois pas comment il pourrait en être autrement. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si une symphonie pouvait pas être l'expression à un moment donné de l'état d'esprit de son compositeur, enfin voilà, ou un roman l'expression. Oui, allez-y, pardon.
Moi j'envisageais la possibilité où on arrive dans un scénario type Iron Man 1 où une armée j'envisage un scénario où on est dans Iron Man 1, une armée crée une armée de robots pour remplacer les hommes. Mais des robots téléguidés. À ce moment-là, on aurait vraiment une guerre machine contre humain. Même si les pour éviter de tuer des hommes, on envoie des machines tuer d'autres hommes.
Je voudrais juste rajouter un truc. En fait, c'est à peu près déjà le cas avec les drones. Est-ce que finalement, on n'est pas à l'aube de la guerre contre la machine, puisque on fait déjà la guerre aux drones? Qui sont des machines téléguidées.
Ouais. Alors, par rapport à ça, pour moi, je vois la guerre un peu comme dans 1984 d'Orwell, c'est-à-dire comme un moyen de contrôle des masses. C'est-à-dire que quand une population elle est occupée à faire la guerre, elle ne pense pas à autre chose. Déjà, donc c'est quelque part hein, pour dans 84, les dirigeants, c'est un moyen commode d'avoir le contrôle sur la population que de il faudrait faire passer. Donc déjà par rapport à ça, la guerre, les drones, selon moi, c'est pour moi la réponse à ce qui s'est passé notamment avec le Vietnam. C'est-à-dire que aujourd'hui et depuis environ 40 ans, nos sociétés, elles ne sont plus capables, parce qu'elles ont évolué, elles ne sont plus capables d'accepter des pertes, des taux de pertes comparables à ceux des guerres mondiales ou comparables même aux images qu'on pouvait ramener du Vietnam. Il faut savoir que le Vietnam, c'est le dernier conflit moderne où la presse, elle a bénéficié d'une totale liberté sur le terrain. Et c'est pour ça que si vous cherchez des images de la guerre du Vietnam, vous allez trouver des choses très choquantes sur la guerre du Vietnam. Parce que la presse n'était pas encore contrôlée comme elle a pu l'être, notamment pendant les guerres du Golfe. Où là, par contre, moi, à ma connaissance, j'ai pas vu beaucoup de photos de division de Saddam Hussein. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup qui se sont fait laminer par les bombes à uranium appauvri. C'est-à-dire que il y avait sans doute, excusez-moi, je vais employer un terme choquant, il y avait sans doute matière à faire des sacrés clichés sur le truc, et ces clichés-là n'ont pas été faits parce que la presse était sous contrôle et parce qu'il y avait des choses qu'on ne veut plus montrer aujourd'hui, qu'on montre plus dans les journaux télévisés. C'est la même chose avec les attentats. Donc par rapport à tout ça, le drone c'est une réponse à ça. C'est-à-dire que on va plus tuer nos soldats sur le terrain pour faire une guerre à la manière d'antan. Voilà, c'est tout. Maintenant, on réussit néanmoins le tour de force de conserver la menace. C'est-à-dire comme dans 1984. Dans 1984, l'auteur il est dans Londres et il explique, il dit que de temps en temps, il y a une bombe qui tombe sur Londres. Et il se pose la question, Winston, le personnage principal, ne sait plus, il sait plus vraiment si c'est l'adversaire qui de temps en temps balance une bombe sur Londres, ou si ça serait pas des fois son propre pays qui une fois de temps en temps en balancerait une, histoire de maintenir un climat d'insécurité dans la nation qui permet de, déjà d'entretenir l'idée que la guerre continue, parce que personne ne la voit, cette guerre, les images sont contrôlées, etc. Donc en fait, la guerre ne devient qu'un un vague concept, quelque chose qui est là, qui est flou, et dont on mesure de temps en temps la menace par l'explosion d'une bombe dans Londres. Ça c'est 1984. Comparé avec notre situation actuelle, on a excusez-moi du terme encore peut-être qui peut être provocant, on a une vague menace terroriste, un État islamique qui est là quelque part et qui veut du mal à l'Occident, et le moyen de le contrer, c'est une guerre de drones, hein, comme vous en avez parlé. Et quelque part, nous, cette guerre, on en voit que ce qu'on veut bien nous montrer, sauf une fois de temps en temps quand il y a un attentat. Mais à ce moment-là, quel est le degré de menace? Quel est le degré de, comment dire, le degré de menace réelle? Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à une invasion, à l'invasion des Huns ou l'invasion de l'armée allemande, hein, quand l'armée allemande est arrivée à Nantes, on disait, ah ben oui, effectivement, l'ennemi, il est là. Je veux dire, voilà, il y a un drapeau qui flotte là-haut et c'est plus le nôtre. Là, en l'occurrence, un conflit comme celui qui existe actuellement, si tant est que c'est un conflit, je dirais, il peut durer, à l'image de 1984, il pourrait durer 100 ans.
Excusez-moi, est-ce que je peux réagir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que vous considérez que la guerre est un moyen d'occuper une masse, un peuple, enfin, ouais. Je pense qu'avant tout, la guerre est faite pour dominer, asseoir son pouvoir, prendre de... s'étendre.
C'est exactement ça.
Je pense que pour occuper le peuple, on lui offre des jeux, un peu à la manière romaine. Aujourd'hui, on sait de quoi... vous comprenez de quoi je veux parler.
Oui.
Là, on va détourner l'attention avec du football, avec des jeux télévisés débilitants.
Je pourrais vous en parler. Je travaille pour un musée à Gravelotte en Moselle qui parle de la guerre de 1870. Et le budget des musées de la Moselle cette année, c'est 1 million. Et il y a 30 millions pour le FC Metz.
Mais le principe
qui vous a battu 3-0 d'ailleurs cette année.
Mais l'objectif de la guerre n'est pas de raser et de tout détruire.
Tout à fait. Mais ça, c'est la guerre moderne. Alors là, on pourrait faire une histoire des conflits et voir ça à travers le temps. Et
justement, l'usage des machines, on est en plein dedans. Là, je veux dire, sans parler de conflits ni de guerre,
ouais.
Si on parle déjà de domination de pouvoir par les systèmes ou par les machines,
oui.
Je pense qu'on est déjà un peu dedans.
Oui.
Par exemple, quand vous montez dans votre voiture qui est moderne, quand elle commence à refuser de démarrer parce qu'il y a un signal qui est au rouge, vous n'avez plus la main sur votre véhicule. Alors que les véhicules d'il y a 30 ans, on les faisait quand même démarrer.
Quand la télé de mon grand-père marchait pas, il tapait dessus et elle fonctionnait.
Quand vous avez le système boursier qui s'emballe et qui échappe au contrôle de ceux qui les ont, de ceux qui ont produit les algorithmes pour faire les calculs, c'est pareil. Le système commence à prendre le dessus.
Oui, bien sûr. Mais comme je le disais tout à l'heure, la guerre, elle évolue quand même dans ses formes, parce que je pense que les dirigeants, ils ont aussi compris qu'effectivement, les grands conflits, les gens n'en voulaient plus. L'opposition à la guerre du Vietnam, elle a démontré que voilà, qu'à un moment donné, envoyer 200 000 bonhommes à l'autre bout du monde, ça passait plus vraiment dans l'opinion, ou alors il fallait vraiment des situations particulières. Le conflit en 2003, le retour en Irak des Américains, les Français qui n'y vont pas, etc. Ça peut aussi être c'est aussi une vision de l'histoire, tout ça.
Oui, juste pour rebondir à ce que disait la personne en face et ce que vous disiez avant, effectivement, l'homme est un loup pour l'homme, ça on le sait. Est-ce que finalement une guerre contre les machines serait pas malheureusement le seul moyen de fédérer les humains contre une autre pas espèce, mais contre autre chose, quoi.
Mais là, on reparle encore. Enfin voilà, l'idée de fédérer, la volonté de fédérer ou quoi, c'est aussi une idée de contrôle. Hein. Enfin moi, je le vois comme ça. Dès que vous me parlez de ça, je vois aussi sur l'idée de dire, je vais pas dire pensée unique, mais voilà. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on a en permanence besoin d'un ennemi pour se déterminer.
Pour éviter de s'entretuer déjà.
Oui, mais est-ce qu'on a nécessairement besoin d'un ennemi? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la chute du mur de Berlin, il y a un bouquin, Le choc des civilisations par Huntington, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, ça parle justement de ce qui se passe, enfin de la géopolitique après la chute du mur de Berlin. Et c'est un auteur américain, ça a conditionné, ça a grandement influencé la politique de George W. Bush. Et ce mec, en fait, Huntington, il parle justement de l'émergence de conflits civilisationnels, justement avec l'essor de l'islam, etc., blablabla. Voilà, il définit, je dirais, un nouvel échiquier géopolitique. Par rapport à ça, moi, ce que j'y vois, c'est effectivement la volonté de perpétuer ce besoin. Cet apparent besoin, enfin, je me pose la question, hein, est-ce un besoin que d'avoir des ennemis ? C'est-à-dire de dire, voilà, est-ce que quelque part, l'Occident notamment, n'est pas en quête perpétuelle d'un ennemi ? Parce que quelque part, si vous regardez notre histoire depuis les Grecs, on a toujours eu un adversaire. C'est pas nécessairement lui qui est venu nous chercher. Je pense que si on commence à faire un peu le compte, c'est plus souvent nous qui sommes allés chercher les autres que les autres qui sont venus nous chercher, pour prendre une image de cours de récré, vous voyez ce que je veux dire. Moi je me dis, déclarer la guerre aux machines, ça serait, est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque part, à un moment donné, une société qui pourrait fonctionner sans ennemis. Sans ennemis.
Je vais rebondir sur cette question parce que en fait, je vais être assez pacifiste, mais très nihiliste. On a parlé des voitures juste auparavant, et il y a un cas assez classique qui est, dans quelques années, les Google Cars ou l'équivalent permettront de conduire les gens de manière autonome. Et puis, il y a ce paradoxe assez classique qui est, il y a un petit enfant qui traverse la route, mais dans la voiture, il y a 4 personnes. Donc, si la voiture sort de la route, elle va tuer 4 personnes, ou elle va les sauver, mais en écrasant le petit enfant qui traverse pour récupérer son ballon. Alors ça, c'est juste une voiture. Mais on parlait tout à l'heure du système économique, du système boursier, qui est déjà un petit peu fou. Et imaginons qu'on ait des machines donc un peu plus loin, dans quelques dizaines ou vingtaines d'années, et que ces machines, elles soient programmées, vous avez dit tout à l'heure, c'est le programmeur qui s'en charge, elles soient programmées pour être justement très, très pacifistes, pour aider l'être humain. Mais là, on n'est plus pour une personne contre 4 personnes dans la Google Car, mais imaginons un virus, une situation écologique, une situation immunitaire, 1 million de personnes ou 4 millions de personnes. Et donc, pour sauver 4 millions de personnes, il faut peut-être éventuellement faire en sorte que 1 million périsse d'une façon ou d'une autre.
Les guerres modernes, c'est des calculs de cet ordre-là, de toute manière. Après, c'est toujours des idées de domination d'un système sur un autre et de...
Est-ce que l'homme acceptera que ce soit une machine qui prenne la décision ?
Ah ! Donc en fait, quelque part, la réponse à ma question de tout à l'heure, c'est oui, l'homme aura en permanence besoin d'un ennemi, et le jour où il réussira plus à trouver un ennemi parmi ses semblables, il se créera peut-être alors une machine qui sera son nouvel ennemi, c'est ce que vous voulez dire ? Voilà. Il faut toujours un ennemi, hein, pour ceux qui...
Je vais rebondir sur cette idée de... Est-ce qu'on a besoin d'un ennemi pour se fédérer ? Dans l'histoire, souvent, la guerre a été quelque chose de fédérateur. Les États-Unis se sont fédérés contre les Anglais. L'Allemagne s'est fédérée contre la France, après avoir vaincu la France en 1870. J'en passe, c'est des meilleurs. L'Europe s'est même fédérée entière pour les croisades.
Oui.
L'Europe n'a jamais été autant pacifiée que pendant les croisades, ce qui est un paradoxe.
Oui.
Alors, peut-être que oui, l'homme occidental a besoin de faire la guerre à quelque chose pour se fédérer. Et en l'absence de signe extraterrestre quelconque, peut-être que oui, un jour on créera des machines, peut-être uniquement pour leur faire la guerre.
Oui. C'est effectivement, ouais, par rapport à ce qu'on disait à l'instant, ouais, je pense que ça pourrait aussi se retrouver dans une espèce de solution à certains problèmes, ouais, effectivement.
Moi, je suis pas trop d'accord parce que je pense que quand on programme une machine, on est sûr du résultat. Du coup, au final, vous n'entendez rien. Là ? Ouais, non ? Là, comme ça ? Comme ça ? Et donc, du coup, comme on est sûr du résultat aussi, c'est humain d'avoir besoin de contrôle aussi sur ce qu'on fait. Et du coup, programmer quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, ça me semble pas possible.
Oui, mais ça, c'est ce que monsieur disait tout à l'heure. C'est-à-dire que au fur et à mesure où le temps passe, on contrôle de moins en moins les objets qui nous entourent.
Qu'on crée, oui. Bah, nous, personnellement, mais il y a toujours quelqu'un qui va quand même le contrôler, même si le cas de la voiture, nous, on le contrôle pas, mais... il y aura quand même quelqu'un qui aura une solution.
J'avais entendu quelqu'un dire un jour, ouais, finalement la première intelligence artificielle, elle existe déjà, c'est Google. Et moi j'ai trouvé que la réflexion elle était plutôt pertinente, parce qu'en fait Google sait ce que vous aimez, non? Enfin, quand vous... moi je m'en sers de, hein, je tape pour faire des recherches et à chaque fois il me ressort toute ma liste de préférés là. Donc c'est qu'il sait très bien qui je suis et donc c'est que voilà, c'est là on est c'est du 2001 quelque part déjà, non? Enfin, hein, quand le robot du vaisseau salue son interlocuteur humain, il le connaît par son prénom, voilà, il connaît ses goûts si je me rappelle bien. Enfin voilà, donc quelque part la maîtrise, la perte de maîtrise, moi je pense que c'est un des éléments clés de la science actuelle aussi. C'est-à-dire que on souhaite aussi perdre la maîtrise. C'est-à-dire la domotique. Ouais, voilà, il y a un moment donné, j'en ai marre d'ouvrir mes volets, alors je vais appuyer sur un bouton, et puis je vais plutôt faire ça, et puis comme ça, il va faire jour chez moi. Et je sais pas, moi perso, je sais pas si c'est un progrès. Je sais pas. Je sais pas ce que ça. Enfin voilà.
Mais par contre, après, là, quand on parlait, un programmeur, il a la maîtrise de ce qu'il fait, il sait ce qu'il va faire. Non, sinon, il n'y aurait pas de bug. Donc déjà, on ne maîtrise pas. Même avec un code, on n'est pas sûr de ce que ça va donner derrière. Donc là, la capacité de contrôle sur les machines, on a déjà ce problème-là du bug, quoi.
Oui, dans la guerre de l'homme contre la machine, on pense toujours aux robots qui vont lutter contre les humains. Moi, j'ai l'impression qu'on y est déjà dans cette guerre-là, mais à un autre niveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à la connaissance partout avec Internet, on a accès à des outils qui nous remplacent grandement partout, et finalement on se spécialise de moins en moins, on connaît de moins en moins de choses alors que tout est à portée de clic, et du coup on est en train de se tirer une balle dans le pied tout seul en ne connaissant plus rien, en soustrayant tout aux machines alors qu'on a la connaissance à portée de main, quoi.
Tout à fait. Je reprends ce concept là par rapport à ce qu'ont fait les nazis en termes de propagande. Hein, Joseph Goebbels, le ministre nazi de la propagande, il disait plus le mensonge est gros et plus les gens y croiront. Et quelque part dans ça, moi ce que j'en retire de ce que vous dites, c'est l'idée que effectivement il vaut mieux servir la soupe aux gens un peu tous les jours, et finalement à un moment donné les gens se lassent, ça devient une espèce de ronron. Et en fait, c'est comme une berceuse en fait. C'est-à-dire que vous avez l'info, mais vous finissez même par ne plus la voir. Voilà, c'est ce que voilà. C'est-à-dire que moi, ce qui me heurte aujourd'hui, c'est sur des événements de type attentat, c'est la faculté déjà qu'ont les médias à réussir subitement à arrêter brutalement d'en parler et ils passent à autre chose. Et je me dis, mais et par moment, moi, sur certains sujets, je prends le train en marche et je m'aperçois qu'il n'y a plus jamais de retour en arrière. Hein, je sais pas, vous prenez un épisode juridique, par exemple. Hein, le mec, il fait ça. Alors, à un moment donné, on le met en examen. Et puis après, 2 ans plus tard, on va le juger. Et les médias reviennent jamais sur ce qui s'est passé au départ. Alors, on vous dit, ah ben oui, dans l'affaire machin, le gars, finalement, non-lieu. Ah bah ouais, mais attends, c'était quoi déjà l'histoire là ? Il y en a aucun qui revient sur le sujet. Ah bah oui, parce que ça prend trop de temps. Il faudrait recommencer à faire des digests et machin et refaire des espèces de sujets. Et non, on est dans une culture du flow. Et dans une culture du flow, bah c'est comme bah voilà, un flow, c'est vous attraper un truc de temps en temps et il y a des tas de poissons qui vous passent autour et vous dites ah bah ouais, il y a des poissons. Alors oui, ah bah il y a à manger. J'ai à manger, mais j'ai rien bouffé parce que j'ai pas réussi à attraper un poisson. Peut-être que les médias et peut-être que les machines qui ont été créées avec Internet, elles sont faites justement en matière d'asservissement pour donner à la fois le sentiment de toute puissance à travers la connaissance, mais en même temps, de par leur nature, de rendre l'acquisition de la connaissance complètement impossible. Enfin, c'est pour, ouais, voilà.
C'est ça. Je fais une autre question juste derrière. Ouais. Cette fois, vraiment dans l'optique de l'homme contre la machine. Du coup, est-ce que les futurs héros de notre ère ne sont pas ceux qui nous font chier aujourd'hui, c'est-à-dire tous les mecs qui développent des virus sur Internet, des spams, des trucs comme ça, et qui, finalement, c'est eux qui vont développer les virus pour tuer les machines.
Comme dans tous les résistants, hein, c'est toujours l'avenir qui dit qui est le résistant et le collaborateur. Voilà, il y avait un monsieur aussi qui voulait poser, pardon, mais...
Moi, je voulais revenir un peu sur quelque chose qui est dans la suite logique de tout ce qu'on vient de dire, mais souvent, quand on parle de guerre entre l'être humain et la machine, on a toujours cette vision un peu, peut-être un peu réganienne, qui a été popularisée par des films comme Terminator, où bah, la machine, c'est une espèce de robot humanoïde, et on va se battre contre lui, mais d'une manière militaire. Alors que au final, aujourd'hui, on voit bien la future voiture qui va se conduire toute seule, avec aussi tous les systèmes boursiers économiques, que la guerre entre l'homme et la machine, elle va aussi se jouer d'un point de vue économique et d'un point de vue social. Une fois que les voitures, les avions, tous ces systèmes vont se piloter tout seuls, déjà qu'ils se construisent déjà plus ou moins tout seuls, une fois qu'ils vont se piloter tout seuls, combien est-ce que l'être humain va perdre en termes de force de travail, de capacité d'emploi? Et du coup, on va avoir des cas comme la série Trépalium, par exemple, où c'est une série belge assez récente, où en fait, le chômage de masse, c'est vraiment un chômage de masse, parce que c'est 70 ou 80% de la population, parce que tout a été robotisé, en fait. Et dans la genèse de Matrix... dans la série d'animation Enter the Matrix, le début de la guerre entre l'être humain et la machine qui amène toute la situation des films, c'est que les machines se déclarent en tant qu'État indépendant et commencent à avoir leur propre industrie. Et sauf que vu qu'elles n'ont pas besoin de repos, elles n'ont pas besoin de droits sociaux, etc., et ben, elles explosent littéralement l'économie mondiale, ce qui fait que les êtres humains, pour continuer à éviter la banqueroute, n'ont d'autre choix que de les éradiquer. Mais la base de base, c'est une guerre économique, c'est pas une guerre militaire.
Oui, d'accord. Oui. Effectivement, la réponse de l'homme depuis très longtemps, effectivement, c'est toujours la guerre et c'est toujours le rapport violent. C'est pour ça aussi que je me suis amusé à préparer mon truc avec Heisenberg, parce que justement, moi, pour moi, c'est la démonstration du contraire. C'est la démonstration d'un savant qui, à un moment donné, réussit par des voies de traverse, en fait, hein, sans jamais s'être opposé directement à qui que ce soit, il a réussi au moins à freiner quelque chose. Et je me dis, pour moi, c'est peut-être un petit peu au sein des sociétés modernes, à un moment, ben voilà, il faut voir que depuis ce temps-là, et le projet Manhattan, c'est peut-être le premier exemple où, on a pris des savants, on leur a donné beaucoup d'argent, qui venait à la fois du privé et du public pour développer quelque chose de monstrueux. Il faut voir que la science, là, il n'y a pas de scientifique, je ne sais pas, mais enfin, il faut voir aujourd'hui que les budgets, ça vient aussi bien du privé que du public, pour ce que j'en sais du moins. J'ai l'impression que sur les contrôles dont vous parlez, l'idée aussi, quelque part, c'est de dire, est-ce qu'on aura toujours des savants comme Heisenberg ? Par exemple, dans mon domaine, hein, c'est-à-dire le Troisième Reich, le volet économique de la période, il est peu ou pas étudié. Et il faut savoir que dans ce domaine-là, les plus, comment on va dire ça, les historiens les plus compétents, là où il y en a le plus, etc., il y a beaucoup de choses qui se fait outre-Atlantique. Et il faut savoir que donc dans ces cas-là, les mecs, quand ils sont chercheurs, ils sont financés souvent par le biais des universités. Donc ça veut dire souvent des fonds privés. Et quand il y en a qui s'avisent de parler d'économie du Troisième Reich, et ben là, subitement, ils trouvent plus assez d'argent pour poursuivre leurs recherches. Voilà. Alors là, on va parler de complot, on va parler à voix basse. Et par exemple, pourquoi ? Ben, par exemple, parce que peut-être que ça gêne des gens encore aujourd'hui qu'on fouille du côté de justement du financement d'Adolf Hitler et du financement du Troisième Reich par les puissances occidentales. Opel, la marque Opel allemande, avant la guerre, elle était déjà détenue en partie par General Motors. Il faut savoir que Adolf Hitler a accordé des droits de douane particuliers à General Motors avant la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils puissent importer les pièces automobiles en Allemagne, hein, du côté de Francfort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande elle a tourné avec des pièces détachées américaines. Voilà, ce genre de truc qui est avéré, c'est pas, je dirais, le mainstream de ce qu'on entend dans le domaine de l'histoire tous les jours. Et surtout, c'est, je dirais, c'est un épiphénomène. Et je vais vous dire, presque quelque part, c'est pas très grave. Parce que vous voyez, ils n'étaient pas en guerre, ils n'avaient pas parfaitement le droit de commercer les uns avec les autres. Voilà, tout le monde a commercé avec eux. Hein. Il ne faut pas croire non plus que les Anglais ou les Français, dès 1933, ils ont dit « Ah, nous, on vous achètera plus rien. Non, non, c'est terminé, on vous cause plus. Hein. Restez dans votre coin. » Non, non, tout le monde a continué à bosser. Et j'entendais encore, j'ai vu un truc là sur les Jeux Olympiques de 36, donc à Berlin récemment. Où le commentateur, donc c'est un reportage tout moderne, hein, il vient d'être fait, et il montre la délégation française qui défile devant Hitler et ils tendent le bras. Et le commentateur moderne qui dit regardez la délégation française, elle fait le salut olympique. Je m'interroge. Alors je sais pas s'il faisait du deuxième degré. Je sais pas, j'en sais rien. Je me suis dit, mais attends, il fait quoi ? Il fait une blague ? Enfin voilà, bref, j'en sais rien. J'en sais rien, mais voilà, excusez-moi. Oui,
on a parlé de guerre militaire, on a parlé de guerre économique. On pourrait peut-être parler un petit peu de guerre sociale. Je pense notamment actuellement la guerre contre les machines, elle a peut-être déjà lieu quand les parents disent aux enfants arrête avec ton smartphone. C'est quelque part une guerre qui existe déjà et qui n'est pas évident. Donc,
j'ai toujours l'anecdote là. Steve Jobs interdisait à ses enfants toute tablette, ordinateur et téléphone. Hein, dites-moi si je me trompe, mais moi j'ai toujours entendu dire que Steve Jobs leur interdisait l'utilisation. Et donc, je pense qu'on n'a pas là de meilleur exemple. Je pense que ce monsieur savait de quoi il parlait. Je pense qu'il avait il avait quelques idées sur l'influence, je dirais, à la fois dans le comportement, dans le développement du cerveau, etc., des machines que lui-même concevait. Bah tiens, on est à fond dans le sujet, finalement. Et de dire, est-ce que quelque part... En tout cas, Steve Jobs, qui en a vendu beaucoup au monde entier, il a peut-être déclaré la guerre, la guerre aux machines, mais au sein de sa famille. C'est à méditer, ça, non ? Justement pour l'utilisation des smartphones chez les enfants. Peut-être une dernière. Pardon.
Moi, je voulais rebondir ce qu'on disait par rapport... tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport aux hackers... En fait, c'est déjà le cas. Parce que, par exemple, pour reprendre l'exemple de Matrix, c'est déjà des hackers, en fait, qui vont un peu foutre le bordel en Matrix. Il y a aussi le très bon exemple de la récente série Mister Robot, où la F-Society, qui est en fait un repompage violent d'Anonymous, même dans le logo... Il hack les banques et tout le système bancaire et financier des États-Unis et ça devient des héros. Alors finalement, puisque ça met un parallèle avec Anonymous, même si c'est pas complètement la même chose, est-ce que on n'est pas déjà finalement dans la glorification du hacker, et est-ce que ça ne sera pas aussi nos nouveaux héros et une nouvelle forme de guerre, puisque la guerre des machines passera aussi par finalement la guerre à travers le virus.
Alors oui, je suis d'accord avec vous, oui. Toutefois, l'adversaire, si tant est que c'est un adversaire, hein, je vais peser mes mots quand même. Donc les banques en face, elles ont quelques longueurs d'avance. Là encore une fois, pour préparer mon sujet, dans mes romans, j'utilise une banque suisse, qui s'appelle la banque. Et je vais finir là-dessus. La banque des règlements internationaux. Et je vous invite tous à aller vous renseigner un petit peu sur la banque des règlements internationaux qui se trouve à Bâle, en Suisse. Bank of International Settlements. C'est la banque centrale des banques centrales. Et ça a été créé dans les années 30, après le crack de 29. Les grandes banques centrales se sont toutes réunies et elles ont décidé de créer un organe de contrôle du système financier mondial pour éviter que ne se reproduise donc le crack boursier de 1929. Les gens qui ont décidé ça, c'était les banques anglaises, françaises, américaines, allemandes, italiennes, japonaises, et j'en oublie peut-être encore quelques-unes. C'est-à-dire que je viens de citer tous les grands belligérants du second conflit mondial. Ces gens ont créé la BRI à Bâle. Et moi, je m'en sers comme d'une boîte aux lettres, ce à quoi elle servait historiquement. C'est-à-dire qu'à Bâle, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des financiers qui travaillaient tous ensemble au sein de la BRI. Et ces financiers, ils étaient français, anglais, allemands, américains, japonais, italiens. Les adversaires sur les champs de bataille collaboraient à la BRI tout le temps du second conflit mondial. Et vous allez, et c'est pas moi qui le dis, c'est le site de la BRI qui précise tout ça, et qui précise néanmoins que les grands patrons ne se sont pas réunis pendant le second conflit, ce qui pourrait aujourd'hui nous choquer un petit peu, évidemment. Mais moi, néanmoins, je peux pas m'empêcher de penser que, quelque part, ces messieurs donc, qui travaillaient à la BRI, et qui donc étaient, qui étaient donc exonérés fiscaux, qui ne payaient pas d'impôts, et qui avait donc l'extraterritorialité, hein, donc en plus, tous ces messieurs, moi ça me heurte un peu de penser qu'en même temps, il y avait leurs potes qui s'égorgeaient sur les champs de bataille, alors qu'eux, finalement, ils se retrouvaient au dîner et pour continuer à maintenir en place le système. Et voilà, et tout ça, c'est véridique, c'est historique, et je le tire uniquement de leur site à eux. Donc, et notamment des statues hein, qui datent de 1930 et je sais plus combien. Mais donc voilà, et j'en terminerai là-dessus si ça va pour vous, et à moins qu'il y ait une toute dernière question. Voilà. Mais c'est tout. Pardon.
Alors, je termine avec la dernière question. Je voulais rebondir sur ce que disait le monsieur là-bas, qui parlait de compétition économique. Et en fait, c'est vrai que de plus en plus, maintenant, on a de moins en moins de guerres conventionnelles, mais on a de plus en plus de guerres économiques qui fait des morts de manière différente. Alors, sur la compétition économique, en fait, la guerre entre humains et machines, ça fait longtemps qu'elle a lieu, ça fait depuis la révolution industrielle, et ça fait depuis assez longtemps qu'elle est perdue, en fait, pour l'homme, parce que la machine est beaucoup plus efficace que l'homme pour un nombre croissant de tâches. Donc, enfin, pour ça, actuellement, il faut savoir que dans le monde, l'économie, elle tourne à 99,5% par la force des machines et à 0,5% par la force humaine. Donc, ça fait longtemps que l'humain, il est hors-jeu sur la partie économique, mais ça reste une volonté humaine qui fait tourner ces machines. La grosse question qui va se poser, c'est le jour où on aura une intelligence artificielle qui aura sa liberté propre et sa volonté propre. Là, à mon avis, l'humanité aura peut-être du souci à se faire. Mais actuellement, enfin pour l'instant, les machines, ça reste au final des outils qui tournent selon notre bon vouloir. Le jour où ces outils auront réellement leur autonomie, à mon avis, c'est là qu'on aura vraiment des questions à se poser.
Ben, je trouve que c'est un bon mot pour terminer. Merci. Voilà. Merci à tous. Et à toutes.